Alors, ce matin, c'est toujours une joie pour moi d'apporter la parole, c'est une joie de vous voir, nombreux encore ce matin, de découvrir des nouveaux visages, nouvelles personnes. Merci d'être là pour ce temps de présentation aussi, c'est vraiment chouette. Et ce matin, l'avantage, c'est que la parole, elle est pour tous. Donc, j'espère et je prie que cette parole puisse aussi vous encourager ce matin. En fait, ce matin, on débute une nouvelle série de messages. Donc, en fait, vous êtes obligés de revenir les fois d'après. Parce qu'il faudra une suite, quoi. Non, c'est pas pour ça. Mais disons que c'est une série de 5 messages intitulés « Sagesse pour ma vie sous le soleil ». Alors, peut-être ça vous fait un petit écho. Et effectivement, on va s'intéresser au livre de la sagesse, ou autrement dit, au livre poétique que contient la Bible. Et il y en a 5, justement. Job, les psaumes, proverbes, ecclésiastes et cantique des cantiques. Donc, c'est des livres avec un style littéraire très différent, des livres bibliques sur lesquels on prêche peu. Alors, évidemment qu'une prédication par livre ne va pas permettre de résumer tout le contenu, mais ça va peut-être vous encourager à les lire ou à les relire. Le livre des psaumes et des proverbes sont plutôt connus, mais que dire de Cantique des Cantiques? Peut-être vous n'avez jamais osé vous y aventurer. Que dire de l'Ecclésiaste? Alors, tous ces livres sont inspirés de Dieu et ils ont encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. Sagesse pour la vie sous le soleil. Est-ce qu'on n'a pas besoin de sagesse pour vivre notre vie? Je pense que oui. Donc, ces 5 livres nous donnent une vision du monde, une vision de la vie. Une vision de la vie qui n'est pas toujours facile, une vision de la vie qui n'est pas toujours rose. On sait que tout n'est pas simple sous le soleil. Amen, vous êtes d'accord? Tout n'est pas simple. Mais il y a une direction qui s'en dégage. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une crise qu'on pourrait appeler existentielle. Une crise de sens. Les gens autour de nous, et peut-être certains d'entre nous ici, ce matin, sont à la recherche de sens. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? J'ai participé vendredi au forum roman des décideurs chrétiens. Et puis, c'est une réalité criante dans le monde du travail. Les jeunes veulent faire un boulot qui a du sens. Ils recherchent des valeurs tellement importantes. Mais j'ai une grande question. Pouvons-nous trouver un sens à tout? Pouvons-nous trouver un sens à tout et toujours? Alors, dans ces livres bibliques, le sens n'est pas toujours explicite. En fait, il y a l'accueil d'une réalité, qui est parfois une réalité de souffrance, mais il y a un encouragement à regarder et à s'appuyer vers celui qui ne vacille pas, celui qui est plus fort que la tempête, celui qui voit bien au-delà de la tempête et qui est même avec moi dans la tempête. Alors, on va commencer aujourd'hui par un passage du livre de l'Ecclésiaste, et je suis certain que si vous citez souvent l'Ecclésiaste, comme cette maman avec son fils, voilà, comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, c'est le temps d'aller te coucher. Le garçon dit « vanité des vanités ». Alors, c'est un peu tout ce qu'on connaît du livre de l'Ecclésiaste, mais c'est vrai que l'Ecclésiaste, il a une approche très peu conventionnelle. Il adopte en fait un point de vue qu'on pourrait dire même extra-biblique pour décrire la réalité de la vie humaine. Donc, son discours est le fruit de ses observations, de ses expériences. Et puis, son contenu, il est intemporel, évidemment, mais il y a un côté irreligieux, en fait, dans ce livre. Ça fait du bien, l'irreligieux, un peu. Mais cet irreligieux, il a fait débat. Il fait encore débat. Il y en a beaucoup qui se sont dit, mais est-ce que vraiment c'est un livre qui a sa place? Est-ce que c'est un livre vraiment qui canonique? Est-ce qu'on l'a beaucoup remis en question? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit là, ce livre? L'Ecclésiaste, il se permet même de remettre en question la sagesse, et puis il est décrit comme un sceptique, un pessimiste, un déprimé. Voilà quoi, tout ce qu'on ne veut pas. Mais ce serait vraiment dommage de rester à se résumer. Donc je crois qu'il souhaite bien pour nous montrer en fait le chemin du bonheur malgré notre condition humaine. Alors, pour info, des fois j'utiliserai les deux, on parle de l'Ecclésiaste ou du Qohélète, c'est le terme hébreu, le nom hébreu qui signifie celui qui rassemble. Et puis après, ben, qui est vraiment ce Qohélète? Qui est le rédacteur de ce livre? Là aussi, grand débat. Au début du livre, il est question de Salomon, mais probablement que c'est un nom d'emprunt, c'est-à-dire pour faire transmettre un message de sagesse. Donc voilà, peut-être vous préférez vous dire que c'est Salomon, comme ça vous êtes sûr que vos fondements ne bougent pas, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a aussi des critiques qui commencent à poser d'autres questions. Mais ça n'enlève rien à ce qui est dit, au contraire. Et je le définirais comme ça, un homme de foi qui s'adresse au peuple de Dieu pour lui apprendre à vivre la vie telle qu'elle est. Hein, des fois, on s'imagine la vie, des fois, on rêve la vie, des fois, on voit la vie comme elle n'est pas. On aimerait tellement qu'elle soit différente, qu'on vit dans nos rêves. Mais non, lui va nous apprendre à vivre la vie telle qu'elle est. Donc l'Ecclésiaste, il décrit la condition humaine comme elle est vécue par la majorité des hommes, croyants ou non. Des hommes qui subissent la vie, parfois sans espérance. Des hommes qui subissent la vie et qui sont parfois esclaves du travail, du matérialisme ou victimes d'un système. Il y en a beaucoup. Donc l'analyse de l'Ecclésiaste est donc très réaliste. La vie sur terre n'est pas facile, comme je l'ai dit. On travaille pour vivre, on passe la majeure partie de notre vie à travailler, et le monde est rempli d'injustices. Puis finalement, qu'on soit riche, sage ou stupide, il le dit comme ça, eh ben on va mourir. Quel constat ! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait face à ces réalités? On peut que être d'accord quand même. Mais donc Qohélète a un enseignement pratique et je vous propose de découvrir avec moi deux clés pour vivre la vie telle qu'elle est. C'est vraiment le titre de ce message aujourd'hui. Deux clés pour la vie telle qu'elle est. Et la première de ces clés, étonnamment, c'est la réjouissance. En fait, tout au long de ce livre, comme un refrain, il y a un appel à la réjouissance. Face à la réalité de notre vie, parfois à notre incompréhension, à notre difficulté d'y trouver un sens, justement, bah, il y a cet appel de se réjouir, de profiter de ce que Dieu nous offre et à se réjouir du résultat de notre travail. Il serait bien sûr trop long d'énumérer tous les versets qui en parlent, mais en voici quelques-uns. Ecclésiaste 3, 13. Manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Ecclésiaste chapitre 8, verset 15. J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'être humain sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Alors, c'est une invitation à l'apéro, après le boulot. Non. Et puis un troisième passage dans Ecclésiaste chapitre 9, il est dit « Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin le cœur content, déjà Dieu a agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vie futile que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours futiles, car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu fais. » Sous le soleil. Ça vous fait rire, quand même. Mais finalement, c'est pas si mal, non? Il y a un commentateur qui a dit ceci, et je trouvais intéressant, il dit « Dans l'Ecclésiaste, la description de la réalité ne débouche donc pas un appel à se tourner vers Dieu, mais sur des recommandations pour assumer l'existence telle qu'elle est. » Donc on aimerait bien, des fois, juste avoir cet appel, il dit « Ben voilà, il faut que la réalité change. » Puis lui, il est terre à terre, il dit, mais non, la réalité, c'est ça, mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a une manière de vivre dans cette réalité, et ça commence par la réjouissance. Donc ça peut un peu nous étonner, nous déranger, mais voilà, il y a un constat. Il y a des jours de pluie, il y a des jours de soleil, il y a des jours de bise, des jours de brouillard, il y a parfois la sécheresse, il y a parfois des inondations. Ça, c'est la météo de notre planète Terre. Et puis, malgré tout, on doit avancer, vivre, travailler. Donc en ce sens, l'Ecclésiaste ne nous dit pas de crier à Dieu pour changer la météo, mais il nous responsabilise en fait. Il nous donne cette clé, une première clé de la réjouissance. Alors en gros, il nous encourage à apprendre à danser sous la pluie, et puis il nous encourage à percevoir le bonheur là où il est. Ce n'est pas dans l'illusion le bonheur, il faut le vivre là où il est, aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas non plus une invitation hédoniste, ce n'est pas se réjouir pour oublier la dure réalité, non, ce n'est pas ça. Et on peut même le comprendre dans l'accomplissement de la promesse de bénédiction que Dieu a pour son peuple. En fait, Dieu, il désire qu'on se réjouisse. Il désire que, malgré les circonstances, on arrive à trouver la joie. Et on peut le voir aussi avec le peuple d'Israël, dans le contexte du règne de Salomon. On peut lire en 1 Roi 4, 10, « Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. » Vous retrouvez quelque chose, l'Ecclésiaste, là, hein? Donc ce n'est pas quelque chose d'une vision négative, c'est plutôt une réalisation de la promesse de Dieu. Avec Dieu, dans ce qu'on vit, dans le contexte d'Israël, n'a jamais été facile, il n'est toujours pas aujourd'hui, hein, mais ils ont pu se réjouir, ils ont pu manger, boire, se réjouir. Parce que Dieu fait une œuvre là où nous sommes. Donc l'Ecclésiaste fait ce constat, le bonheur vient de Dieu, en récompense de son labeur, et il faut s'en saisir. Il faut le prendre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, mes moments les plus fous, mes moments les plus drôles, mes meilleurs souvenirs, ben, ce n'était pas par beau temps. C'était même plutôt sous la pluie. Et ça vous est arrivé de rire sous la pluie? Moi, je repense à un de mes premiers camps flambeaux où il a commencé à avoir une pluie diluvienne, quoi. Et on n'avait même pas, on dormait sous tente, on n'avait même pas encore eu le temps de creuser nos rigoles, hein, pour faire écouler la pluie un peu ailleurs que dans la tente. Donc on s'est tous retrouvés à retrousser nos jeans à pieds nus dans la boue, en train de piocher autour des tentes pour essayer d'éviter le pire. Mais tout le long, on a dit on rigole, hein. On creuse nos rigoles et on rigole, quoi. Mais on était trempés, mais je m'en souviens encore. Ça a marqué ma vie de flambeau. Je me souviens d'une bataille de boules de neige où j'ai dû un peu faire le choix de sacrifier mes nouvelles chaussures, mes nouvelles Nike que j'aimais tellement. Je fréquentais ma femme et puis on se retrouve sur un parking avec de la neige, puis elle commence à m'envoyer des boules de neige. Quelle bonne idée! Elle voulait voir si j'étais un peu joueur, quoi. Puis à un moment donné, je me suis dit, je fais quoi, le gars pas cool sérieux, ou je rentre dans le jeu. Mais mes chaussures. Ah, bon, mais quel rire on a fait, on s'en souvient. Je me souviens aussi d'un temps, où, d'un après-midi où il faisait tellement moche, puis les enfants étaient tellement fatigants. Je dis, bon, peu importe, on va y aller. On va aller à l'aventure, les gars, ok? Ouais, hein. Puis là, on a marché sous la pluie, sous le vent, on voyait même pas de vent, mais ils étaient tellement contents, on a tellement rigolé aussi de vivre ce moment. Et encore récemment, avec Quartier Libre, grosse pluie, match de foot, certains étaient là, certains s'en souviennent, hein, mais c'était génial finalement, notre temps a été marqué par ce match de foot-là. Notre moment, c'est un moment d'équipe, c'était pas avec tous les enfants, mais on a rigolé, il y en a qui ont fini à torse nu, après on a dû nous prêter des habits, enfin voilà, on a tous été malades le lendemain. C'est pas grave. Mais il y a un moment à saisir, il y a un moment de joie à saisir, quel que soit le temps. Il y a un lâcher-prise, il y a un choix. Un philosophe du 1er siècle, justement, a dit ceci, « La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Alors je vous invite à mettre votre ciré, à reprendre vos parapluies, ce sera une petite annonce que Jean-Jacques fera tout à l'heure, hein, mais osez vous réjouir, osez danser sous la pluie. Et quelque part, l'Ecclésiaste rejoint l'enseignement de Jésus, et je pense que c'est bien de faire un parallèle avec Jésus, parce que si vous dites on reste que sur l'Ecclésiaste, ça devient compliqué, mais non. Je pense même qu'on peut très bien rejoindre ce message du sermon sur la montagne où Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, à quoi nous habillerons-nous, avec quoi nous habillerons-nous, pardon. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Il désire que nous nous réjouissions, que nous ne restions pas dans l'inquiétude du lendemain, encore moins déprimés. Mais se réjouir, ça demande de faire confiance à Dieu. J'ose me réjouir, car je sais qu'il prend soin de mes besoins. Jésus nous propose encore de nous concentrer sur le royaume de Dieu, sur d'autres valeurs, d'autres priorités. Il nous invite à rechercher et faire la volonté de Dieu, rechercher et accomplir sa justice. Quelle que soit la météo, recherche ce qui est sur mon cœur, nous dit l'Éternel. Travaille à ce que j'ai déposé en toi. Fais ton job avec justice. Réjouis-toi de ce que je te donne. Alors déjà, quelques questions pour nous. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te fait voir la vie négativement? Qu'est-ce qui ne fait pas sens pour toi? Est-ce que peut-être tu pourrais faire un échange ce matin? Est-ce que tu pourrais lui donner ces aspects-là? Lui dire, mais je trouve la vie futile. Je ne comprends pas où je vais. Je ne te comprends pas non plus parfois. Puis il y a ça qui se passe, puis je ne comprends pas. Je te donne ce qui me préoccupe. Et puis je veux me réjouir avec ce que toi, tu me donnes. Première clé, la réjouissance. Une deuxième clé qui paraît un petit peu plus stricte, c'est la crainte de Dieu. Bien sûr, c'est une notion qui transcende toute l'écriture, la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur, hein, c'est vraiment un mouvement de révérence devant qui est Dieu. C'est reconnaître qu'il est le point central de tout ce qui existe, il est au-dessus de tout, il est tout-puissant. Puis la crainte de Dieu, elle produit en nous un respect. Elle produit l'obéissance, la poursuite du bien. Et c'est justement ce que l'Ecclésiaste nous enseigne aussi dans plusieurs passages. Ecclésiaste 3,14, « Je ne sais pas tout ce que Dieu fait, est pour, je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne. » Et puis au chapitre 11, « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux, dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si, c'est, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Alors ce dernier passage, il ne parle pas explicitement de la crainte de Dieu, mais j'y vois pourtant un écho avec le livre de Job, hein, lorsque Dieu lui demande « Où étais-tu lorsque je formais la terre ?» On en parlera de Job. Et il y a ici le constat qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Hein, on sait, il y a plein de choses en 2022 qu'on ne sait toujours pas. On ne comprend, on n'explique pas tout. Alors, il y a une invitation à être humble. Donc comme je dis, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, pas du tout. Dieu est bon. Dieu t'aime maintenant là, comme tu es, avec ce que tu vis. Mais c'est reconnaître qui il est et avoir cette position d'humilité. Pour reprendre l'image de la météo, on ne sait pas aujourd'hui comment influencer la météo. On sait à peu près la prédire, plus ou moins. Hein. Moi, j'ai arrêté de regarder il y a longtemps d'ailleurs. Mais à peu près, mais on n'a aucune influence. Pourtant, lui, il a l'autorité sur tous les éléments. Mais pas nous. Du coup, l'Ecclésiaste nous invite à nous réjouir et à persévérer, à travailler, à semer, car on ne connaît pas les plans de Dieu. Au chapitre 9, au verset 10, il est aussi dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Donc finalement, ça nous garde dans une position d'humilité. Je fais ce qui est devant moi. Je fais ma part. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui gère le résultat. C'est lui qui gère le fruit. Moi, je sème par n'importe quel temps, puis je me réjouis d'avoir fait mon job, d'avoir fait ce qui m'est demandé. Parfois, je me pose même des questions en tant que pasteur. On va dire, pasteur, forcément, ça a plein de sens. Mais des fois, je me dis, je prêche, puis la semaine d'après, ils ont oublié la prédication. Alors vraiment, est-ce que ça valait le coup Hein? Mais je reviens à ça. C'est ce que tu me demandes de faire. Alors je fais. Et puis le reste, il s'en occupe. Ok ? Quelle vision du travail as-tu ? Que sèmes-tu ? On a tous à semer quelque chose d'unique que Dieu a mis en nous, j'en suis persuadé. Mais peut-être qu'on se pose parfois un peu trop de questions. Et je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on veut tous que notre job ait du sens. Mais pour qu'il y ait du sens, il faut qu'on soit en adéquation avec des valeurs. Il faut qu'on se sente utile. Moi je crois qu'on peut être utile partout, dans tous les jobs. La question en fait, ce n'est pas tellement les valeurs de l'entreprise. C'est plutôt tes valeurs à toi. Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce que toi, tu sèmes ? Mais je crois aussi qu'on ne peut pas toujours s'épanouir au boulot. C'est top de faire ce qu'on aime, mais en fait, c'est un privilège énorme. Et il ne faut pas croire que la majorité des gens sont heureux dans leur lieu de travail. C'est une illusion, ça aussi. En fait, le travail, par définition, est quelque chose de difficile, de fatigant. Ça nous ramène à la Genèse, où on allait gagner notre pain à la sueur de notre front. Alors j'ai envie de vous inviter à ne pas reculer devant l'effort. Faisons ce que nous sommes appelés à faire par tous les temps, avec ce cœur qui laisse à Dieu le soin du résultat et qui le laisse répondre à la question du sens. Donnons-lui nos pourquoi, faisons-lui confiance. Vous vous souvenez de cette parabole du semeur que Jésus raconte ? Le semeur sorti pour semer. Sa responsabilité au semeur, c'est quoi ? C'est de semer. Hein ? C'est pas lui, il n'est pas responsable du terrain, il n'est pas responsable du résultat. Il sort et il sème. On ne maîtrise pas les circonstances, le climat, l'époque, le milieu dans lequel il nous a placés. Nous sommes là, vous êtes là, on est là ensemble. Et nous sommes appelés à faire notre part et à saisir chaque instant de joie. Alors j'arrive à la conclusion, le livre va se terminer avec un verset magnifique, chapitre 12, verset 13. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. On est content d'avoir une vraie conclusion, hein, parce que si vous traversez le livre, des fois vous dites, purée, il allait où ? Donc on arrive à une conclusion, crains Dieu, reconnais l'autorité de Dieu et obéis à ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. Et je pourrais le mettre en parallèle avec cette conclusion aussi du chapitre 6, verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Donc ce message de sagesse nous encourage et nous donne deux clés pour vivre ma vie telle qu'elle est, la réjouissance et la crainte de Dieu. Et ce matin, vu que vous êtes là, vous n'êtes pas là pour rien, j'aimerais encore vous faire un petit peu réfléchir. Est-ce que à un moment donné, j'ai arrêté de me réjouir. Est-ce que mes inquiétudes ont pris le dessus ? Peut-être que tu passes par une tempête aujourd'hui, puis c'est le moment d'apprendre à danser sous la pluie avec ton papa du ciel, comme un enfant qui peut rire, qui peut se réjouir, parce que lui maîtrise tout. Ne perds pas ta joie. Ce matin, je peux aussi choisir d'accepter que je ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas grand-chose même, mais on a un grand Dieu. Alors peu importe mes sentiments, on dit souvent les sentiments mentent, hein, sentiments. Peu importe mon feeling du moment, je veux semer. Je veux faire ce qu'il me demande, même si ça me semble futile parfois. C'est ok, parfois ça peut sembler bizarre. Même si mon job est ingrat, même si je ne me sens pas très utile, même si on ne me voit pas, même si on ne me dit pas merci, même si c'est crevant. Souvent, quand je discute avec ma femme, elle avait ce sentiment-là. Je fais des choses en tant que maman au foyer, et puis je dois toujours recommencer. Je me casse la nénette pour faire un bon repas, et puis ils n'aiment pas ce que j'ai fait. Je nettoie, et ils salissent direct derrière. Je leur dis 10 fois de tirer l'eau quand ils ont fini d'aller aux toilettes. Franchement, des fois, je dis, mais à quoi bon, quoi ? Puis je suis là dans ma maison, puis je vois personne, puis j'ai l'impression de rien faire d'utile pour les autres. Des fois, c'est ça, le sentiment qu'on a. Mais c'est son appel aujourd'hui. C'est notre appel, parce que je le fais aussi avec elle, évidemment. Mais c'est ça, c'est notre job maintenant en tant que parents. Mais ce n'est pas toujours évident. Les amis, ne l'oublions pas, il y a de la joie lorsque nous accomplissons fidèlement ce que nous sommes appelés à faire. Et puis on dit toujours que les enfants nous le rendent bien plus tard. Il semblerait, hein, c'est bon. Il y a de l'espoir. De l'espoir, Camille et Johan, ce matin. Alors si vous êtes d'accord, on va encore incliner nos têtes pour simplement recevoir la bénédiction du Seigneur. J'aimerais prier pour peut-être ceux qui ont perdu ce goût de la vie, pour ceux qui sont encore au cœur de la tempête, pour ceux qui ont de la peine à tout comprendre, à saisir, pour ceux qui peut-être avaient l'intention d'abandonner ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Père, merci parce qu'on peut venir avec humilité devant toi et on accepte ce matin de ne pas tout saisir, de ne pas tout comprendre. On accepte aussi d'être vrai avec nous-mêmes. Où il y a parfois des moments où on ne comprend pas ce qu'on fait. On trouve que ça n'a pas de sens. Tout ça, pourquoi ? Seigneur, on veut aussi te donner ces émotions. On veut te les confier. Et Seigneur, je prie aussi ce matin que tu viennes nous donner ce goût de la vie. Que tu viennes nous donner ce goût de joie. Parce qu'au milieu des tempêtes, tu arrives, toi, à nous donner la joie. Seigneur, au milieu d'un job qui est parfois difficile, ingrat, tu peux nous donner cette récompense interne qu'on a fait ce qui était juste, qu'on y a fait ce qui était bon. Et Seigneur, on veut vraiment regarder à toi. C'est notre cœur encore ce matin de faire ta volonté, de rechercher ta volonté. Seigneur, c'est ta volonté, ce n'est pas la nôtre, c'est la tienne. Et parfois, c'est insondable. Mais Seigneur, on est là. Merci de donner de la persévérance à celui qui voulait abandonner ce matin. Merci de donner de la force pour semer ce que tu lui demandes de semer. Pour être enfant de Dieu, là où tu l'as placé, dans un contexte peut-être difficile. Oui, Saint-Esprit, merci pour ta parole qui fait son chemin. Même si des fois, de prime abord aussi, là, on ne comprend pas tout. Mais merci pour ce livre de l'Ecclésiaste. Merci pour ces deux clés. La réjouissance et la crainte de ton nom. Je prie, Seigneur, que tu encourages ton peuple ce matin, chaque personne qui est là, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.